Scénographie du laboratoire. Pour qui veut avoir une image du laboratoire de Yamamoto, je peux proposer différentes mises en scène. L'une est de mon cru et doit permettre de pénétrer le laboratoire avec le regard ingénu d'une première fois. Elle donne à voir l'espace tel que je l'ai perçu lors de ma première visite. Les deux autres mises en scène sont celles des acteurs eux-mêmes, qui se figurent l'espace et le peuple d'éléments que je n'avais d'abord pas saisi. Chacune de ces scénographies nous apprend un peu plus sur le laboratoire que la précédente. Première scénographie. Je rends visite à Yamamoto pour la première fois au cours de l'été 1995. À mon arrivée au Japon, Yamamoto m'indique par téléphone comment gagner le laboratoire. Je suis ses consignes, prends le train à la gare centrale de Shinjuku en direction d'Enoshima, compte 40 minutes et m'arrête à la station Mashida. C'est là que Yamamoto me retrouve. Il m'invite à déjeuner dans un restaurant près de la gare. Et je n'ai que le temps d'apercevoir la ville dans laquelle je vais venir vivre l'année suivante. Une ville comme l'immense banlieue de Tokyo en compte beaucoup, organisée autour d'une rue commerciale bondée. De notre premier déjeuner, je ne garde qu'un souvenir vague. Nous parlons de tout, sauf de ses activités au laboratoire, sauf même du projet de recherche qui m'a conduite jusqu'à lui. Nous énumérons nos loisirs avec satisfaction, nous en trouvons en commun. Je me détends. Yamamoto est plus jeune que ce que je me le figurais. Il parle un anglais que je comprends et il est plein d'humour. Mon séjour au Japon est prometteur. Nous allons même marcher en montagne et faire du ski. Nous gagnons le laboratoire en début d'après-midi. Lorsque nous franchissons les barrières de l'Institut Michubi qui l'abrite, Yamamoto marque un temps d'arrêt devant la cabine des gardiens, le temps pour eux de m'identifier comme une de ses hôtes. Nous longeons le réfectoire, puis, quelques mètres plus loin, les bureaux administratifs, la porte d'entrée principale du bâtiment 1 est un peu en renfoncement. Le laboratoire de Yamamoto est tout de suite sur la droite en entrant. Yamamoto s'arrête devant trois grands panneaux disposés sur le mur du couloir. Chacun d'eux représente, m'explique-t-il, un des trois sous-groupes du laboratoire. Le premier panneau atteste seul de l'existence, fictive encore pour moi, du laboratoire outre-mer. Une carte de l'archipel hawaïen, des photographies de mouches hawaïennes, un arbre phylogénique servent à donner une idée des objets étudiés par les chercheurs. Troisième scénographie, plan 3 du film qui clôture le projet Yamamoto en 1999. On est dans le laboratoire. Une petite musique de campagne, le spectateur dans les couloirs. Une porte s'ouvre, une jeune femme en blouse blanche passe, des documents à la main. La voix off annonce « Dans ce projet, nous étudions comment les comportements sexuels sont contrôlés par les mécanismes génétiques et comment ils sont liés à la spéciation dans le processus de l'évolution. » Plan 4. Gros plan sur le panneau accroché à l'entrée du laboratoire qui porte le nom du projet et qui est en même temps le nom du petit recteur du groupe. Plan 5. Parcours dans le laboratoire. La caméra passe sur un chercheur, puis un autre installé à leur paillasse. De manière quelque peu inattendue, la voix annonce. La drosophile compte parmi les organismes les mieux étudiés en génétique. Dans nos recherches, nous avons d'abord cherché des mutants qui montraient des comportements sexuels anormaux. Plan 30. L'archipel hawaïen vu d'avion. Le plan reste le même tout le temps nécessaire à la voix pour expliquer la particularité des îles hawaïennes. Le développement endémique de la multiple espèce de drosophile ainsi que les phénomènes spécifiques de spéciation. À la vue du ciel vient se superposer un schéma de l'archipel. Cette formidable diversité des espèces a-t-elle quelque chose à voir avec les gènes du comportement sexuel ? Plan 34. Un îlot de verdure, de grands arbres secoués par le vent, c'est la vue que l'on a d'une des fenêtres du laboratoire. Un homme, face à la fenêtre, est installé à son bureau. Il tourne le dos à la caméra. On ne voit pas ce qu'il fait. Scénographie du laboratoire, dans le chapitre « Un laboratoire au Japon, par un laboratoire japonais ». Sophie Houdard, La cour des miracles. Ethnologie d'un laboratoire japonais. CNRS, 2008.